multiplié.
Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas trop de bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
I would like to say to the world, vive le cinéma!
Jamais ce cri d'amour de Tarantino pour le cinéma n'aura résonné aussi justement que cette année. Sale temps dehors, mais météo magnifique dans les salles. De grands films sur de grands écrans, oui, vive le cinéma et vive les salles pour l'accueillir et le célébrer comme ici à Cannes, où nous sommes en direct du Palais des Festivals pour cette remarquable 72e édition. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous dans les Alpes-Maritimes.
Oui, de mémoire et depuis très longtemps, on n'avait pas connu un tel niveau de sélection, multipliant les propositions de cinéma dans une surenchère vertigineuse. Des auteurs confirmés en grande forme et de nouveau très audacieux. Résultat, à peu près 5 palmes d'or envisageables. Almodovar, Bong Joon-ho, Siama, Loach, Lajli ont plein presque le jury devant ce menu si riche. C'est parti.
Il y a une belle compétition cette année, hein, avec des réalisateurs fantastiques comme Xavier Dolan. Moi, je ne pense pas à la Palme d'Or. Hein. J'ai déjà une Palme d'Or. Ce à quoi je pense, c'est... Pour moi, il s'agissait d'accompagner un film dont je suis fier, de le présenter devant un public et que le monde entier le découvre pour la première fois. C'est ça ma récompense, le public de la première.
Tarantino, beau joueur, présentait ici Once Upon a Time in Hollywood, une ode au cinéma de sa jeunesse à Hollywood en 69, autour d'un acteur sur le déclin, Leonardo DiCaprio, et sa doublure cascade, Brad Pitt. Elle est reconstituée, celle du pré-Nouvel Hollywood, star de télé, série B, tournage, et face à cette artificialité, la violence naissante, la vraie, celle de l'effrayant clan Charles Manson. Oui, Tarantino change l'histoire, comme il l'a fait pour Inglourious Basterds, et rêve d'une autre destinée, on n'en dira pas plus là-dessus. Le tout enveloppé dans l'amour du cinéma, il reconstitue même des tournages de l'époque à la manière d'eux. Moins violent que ses précédents, plus mélancolique, mais ponctué d'humour et d'amitié, celle qui unit ces deux grands acteurs qui s'amusent et ça se voit. Le film est enthousiasmant et rencontrer face à face Tarantino l'est encore plus. Le voici, traduit et interprété par Harold Manning.
To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt double Cliff Booth.
So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does.
Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load.
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Hello, Quentin. Thank you for this. Merci pour cette magnifique lettre d'amour au cinéma, qui est aussi une lettre d'amour à votre enfance quand vous aviez 6 ans à Los Angeles en 69. Qu'est-ce que vous regrettez le plus de cette époque? Est-ce que ce ne serait pas le savoir-faire artistique?
C'est sûr qu'il y avait beaucoup de talent. Quand on pense à certains films sortis en 1969, que ce soit
Sam Peckinpah
avec La Horde Sauvage,
George Roy Hill
avec
Butch Cassidy
et Le Kid. Si La Horde Sauvage sortait aujourd'hui, on serait tous hallucinés. Mais c'était déjà hallucinant à l'époque. Hein.
Votre film montre le grand fossé entre la culture hippie du peace and love et la violence qui s'étalait sur les écrans. Nous allons buter, dit une adepte de Manson, tous ceux qui butent des gens sans arrêt dans les films. Ça, c'est un vrai discours sur la violence. Est-ce qu'il s'applique aussi à la violence dans vos films?
Je ne vois pas ça comme un message sur la violence dans mes films, non.
What Sadie says,
mais ce que Susan Atkins dit dans son petit discours, c'est moi qui l'ai écrit. Mais ils avaient tous fait beaucoup de déclarations dans ce genre, hein, les membres de la Manson family, surtout les filles. Les filles de cette communauté avaient dit des choses très proches, et j'ai décidé d'en faire leur philosophie.
Il y a une scène absolument terrifiante, mais sans effusion de sang, dans le ranch de Manson. Vous prouvez donc que vous pouvez faire peur sans hémoglobine.
Ça, c'est en fait, c'est peut-être une de mes préférées parmi toutes les scènes que j'ai réalisées. Ça m'a passionné de la revoir dans le Palais des Festivals. Il devait y avoir 2000 personnes là-dedans. Et il y avait un silence de mort pendant la projection. On aurait entendu une aiguille tomber par terre. On voyait les gens tendus et concentrés. Et ce silence, c'était unique. Et sans effet aucun, en fait. Je ne sais même pas trop comment on s'y est pris, mais je suis très fier de cette séquence.
Filmer à la manière dont on tournait les films à l'époque, est-ce que c'est une façon pour vous d'en faire partie?
Part of this period.
Mm-hmm. Oh well, you know. Well, I don't really have a choice.
C'est pas comme si j'avais le choix. Mais je peux choisir de tourner en 35 mm sur pellicule 35. Je veux filmer à une caméra, pas à plusieurs caméras. Et si j'ai une scène compliquée, je ne veux pas faire de prévisualisation sur ordinateur pour copier le résultat avec la caméra. Non, je construis toujours mes scènes sur le plateau.
Il y a cette scène merveilleuse où Sharon Tate, la comédienne, se rend à une projection pour écouter le public réagir dans la salle à sa scène. Ça pourrait être vous, ça, non, Quentin?
Oh, that's true.
Ah, ça, c'est vrai.
That's true. I mean, it actually surprises me how.
Ça me surprend toujours.
How few both.
De voir le peu d'acteurs et même de réalisateurs qui vont voir leurs films en salle quand ils sortent. Ils font la tournée de promo. Ils assistent à la première. Mais au bout d'un moment en tournée, ils vont dîner pendant le film. Et si c'est la première allemande, ils font une présentation, ils font le tapis rouge, ils vont manger, et puis ils reviennent à la petite fête.
Pas vous.
Non. Bon, il y a eu des fois où je suis allé manger, mais d'habitude, non. Si je suis en Allemagne ou en France, je ne pourrais pas y passer une semaine pour aller voir le film avec un public normal. La première française, c'est l'occasion pour moi de découvrir le film avec un public français, de voir ses réactions, ou alors un public suédois. Quand un film à moi sort en Amérique, le premier week-end, je dis toujours à tout le monde, parce qu'ils me disent toujours, allez, quitte le pays, va-t'en, fiche-camp. Et moi je dis non, j'ai besoin du week-end. Je veux le vendredi, le samedi, le dimanche, pour aller voir mon film. Je connais bien Los Angeles, je vais le voir dans plusieurs salles, j'y trouve des réactions différentes, et après ça, je prends l'avion, je peux me casser.
Je me souviens de vous, président du jury en 2004, et je me rappelle de votre rire, quand vous découvriez une scène drôle. Et dans ce rire, on entendait, mais pourquoi c'est pas moi qui ai eu cette putain d'idée? C'était pas de la jalousie, c'était votre enthousiasme devant les films d'autres réalisateurs.
J'ai l'impression. Bon, si j'aime pas, j'aime pas. Mais de la générosité envers le cinéma, la générosité envers mes collègues cinéastes, voilà ce que je peux apporter. Et j'adore m'enflammer. J'adore voir les choses que j'aime et de dire quelle super idée. Est-ce que je pourrais pas l'utiliser quelque part? Bon, je vais pas la copier, non, mais ça peut m'inspirer pour autre chose.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez ramené le public jeune dans les salles de cinéma avec vos films? Vous en avez conscience de ça? Vous avez recréé le désir du cinéma.
C'est super. J'espère que c'est bien le cas. J'ai entendu des gens dire que chaque nouvelle génération finit par rencontrer un de mes films. Il y a celle qui a vu Pulp Fiction. La suivante, le premier film de moi qu'elle a vu, c'est Kill Bill. Et pour une autre génération, ce sera Inglourious Basterds. Et pour d'autres, ce sera Django Unchained. Il me semble, je ne sais pas si ça continuera,
they appear to each the different eras,
que pour ces films, chaque époque leur apporte un nouveau public. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais si on patiente un peu, ça peut fonctionner.
Est-ce que le fétichisme du cinéma vous manque, le culte de l'objet cinéma, ça vous manque, ça? Do you miss that?
Le cinéma, il traverse une époque intéressante. Le cinéma semble bien se porter, mais en vérité, il est de plus en plus en compétition pour attirer notre attention. Il y a la politique, les informations. Moi, par exemple, j'ai plus suivi la politique ces deux dernières années que pendant tout le reste de ma vie. Donc la politique, la télé, les séries, les jeux vidéo, les médias sociaux. Notre attention a été acquise au cinéma pendant si longtemps, et aujourd'hui, il est en concurrence pour nous intéresser.
Enfin, vous ne trouvez pas que la vie est plus belle après un bon film?
Oh, yeah, absolutely. Exactement.
Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, sortie prévue en France le 14 août prochain. Le nouveau Malick, une merveille ou un pensum? Le film a beaucoup divisé la presse à Cannes. Terrence Malick le retour donc avec Une vie cachée, l'histoire vraie d'un paysan autrichien qui refuse pendant la Seconde Guerre mondiale de se battre contre les nazis et est passible de la peine de mort. Beaucoup plus lisible que les précédents films de Malick dans sa narration linéaire. 2h53 de grand angle pour sublimer la nature et cette même idée répétée à l'infini, la volonté d'un homme à défendre ses idéaux. Un sermon bien pensant, Laurent, où les Autrichiens parlent anglais et les nazis crient de l'allemand non sous-titré.
Oui, c'est la ligne brune, hein, selon Terrence Malick. Ce dernier aspect du film linguistique dont vous parlez, il est tout sauf anecdotique, oui. À mes yeux, à nos yeux, je crois. Oui. Hein, parce que, franchement, on peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, voilà, il y a la langue du bien, qui serait l'anglais, et la langue du mal, qui serait l'allemand, en plus, comme vous le dites très bien, non traduit. C'est-à-dire qu'on ne le comprend même pas. C'est une éructation permanente face à la langue qui serait celle de l'empire du bien. Franchement, c'est à rebours même de ce que pense Malick même. Enfin, j'espère qu'il pense pas binaire à ce point-là, parce que en ce moment même, d'ailleurs, là, en Europe, ça serait terrible de penser ça et d'avoir cette vision-là du cinéma. Donc ce film se disqualifie lui-même avec un tel procédé. C'est très dommage, évidemment.
Une auteure, une vraie et une cinéaste accomplie, Céline Sciamma, avec Portrait de la jeune fille en feu, a été la grande et belle surprise française. Un film en costume résolument moderne dans le discours, une peintre et son modèle féminin en 1770, la description d'un amour interdit et une façon pour Sciamma de se réapproprier ce récit, enfin raconté au féminin. Subtil, sensuel, politique, dialogue ciselé, mise en scène inspirée et un final qui nous a cloué à notre fauteuil. Et enfin, deux interprètes remarquables, Noémie Merland et Adèle Haenel. Et si la palme revenait à une femme, ce serait tellement mérité. Voici Céline Sciamma.
Vous m'autorisez à être curieuse? Comment est votre jeune maîtresse?
Je ne sais pas trop, je la connais peu.
Mais vous êtes ici depuis 3 ans?
Elle n'est là que depuis quelques semaines.
Où était-elle?
Chez les bénédictines.
Elle a quitté les ordres?
On l'a sortie du couvent. Parce que sa sœur est morte.
C'est elle qui devait se marier. La maladie l'a emportée?
Non. Vous pensez que vous allez y arriver?
Arriver à quoi?
À la peindre.
Je sais pas par où commencer tellement ce film, mais m'enthousiasme complètement. Vous représentez ici la naissance et développement d'un amour. Une histoire d'amour, certes, entre deux femmes, mais avec un souci d'égalité, comme on voit pas dans les histoires d'amour en général.
C'est le grand projet du film. Ouais. C'est de faire un film, de faire une histoire d'amour avec de l'égalité. L'histoire d'amitié aussi avec de l'égalité. Enfin, c'était de faire un film construit autour de la question de l'égalité, qui est, je crois, le beau souci que j'ai depuis plusieurs films.
C'est compliqué de se débarrasser des carcans, hein, classiques du film de costume.
Moi, j'étais surtout obsédée par la reconstitution de l'intime et par le fait de ranimer, de redonner du présent à ces femmes du passé qui n'ont pas été racontées. Et donc, c'est l'endroit où on est dans l'actualité, c'est que on les raconte maintenant, je les raconte maintenant, et elles n'ont pas été racontées. Et ça, c'est une urgence de cinéma, non? Ça, c'est pas passéiste, c'est pas poussiéreux, c'est pas l'académisme, c'est pas le passé, puisqu'on ne le raconte que maintenant. En ayant peu de femmes autrices, certes, on s'est coupé d'artistes et d'expériences artistiques, mais on nous a aussi coupé de la mémoire de nos vies privées et de nos vies intimes, de nos récits sentimentaux et de nos récits aussi de vie. Ouais, et de vie. Et ouais. J'ai travaillé évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai travaillé avec des experts, et c'était quand d'un coup je leur posais des questions sur la vie intime, genre comment faisaient les femmes avec leurs règles, d'un coup là on sent que c'est des gens qui sont pas du tout investis.
En peinture, ça n'a pas été représenté, l'avortement.
Il y a une phrase d'Annie Ernaux que j'ai lue après avoir tourné le film, qui m'a bouleversée, et qui, elle dit « Il n'y a pas un musée au monde dans lequel il y a un tableau qui s'appelle La faiseuse d'anges. » Ouais, ça donne du courage de penser les choses à plusieurs.
Ouais. Vous comprenez quand on vous dit que c'est peut-être genré de dire ça, mais quand on est une femme, c'est absolument réjouissant de voir un film comme ça. Est-ce que vous l'avez fait aussi pour nous, et vous l'avez fait aussi pour vous? Vous avez fait le film que vous vouliez voir, enfin.
Oui, j'ai fait le film que je voulais voir. Je crois qu'on fait les films qu'on peut faire, hein. Et que dans le cadre de ce qu'on peut faire, de ce qui nous vient, de ce qui nous plaît, eh ben, il faut essayer de faire les choses qu'on voudrait voir. Il y a, je crois, une excitation. Moi, je crois beaucoup que les bouleversements des représentations, les questions qu'on se pose sur les représentations, et notamment les représentations des hommes et des femmes, les représentations de la sexualité, d'un coup il y aurait une espèce de méfiance, comme si on allait jeter l'opprobre, on serait sur du côté du puritanisme. Mais moi je crois au contraire que c'est des opportunités nouvelles de créer des scènes excitantes, de créer des nouvelles images, de remettre de la libido dans le cinéma. C'est ça le projet, pas l'inverse. Y a pas de mots, on n'est pas des moralistes, on est là pour créer.
C'est dingue, en voyant votre film, on se dit, ça fait plus de 100 ans que ça existe, et c'est très rare d'avoir que des femmes mènent la danse, filment d'autres femmes, filment d'autres hommes. C'est un sentiment de frustration énorme, finalement, toutes ces années perdues, sans regard des femmes.
Bien sûr, moi c'est surtout ça qui m'a marqué quand j'ai fait les recherches sur les peintres femmes. J'avais pas connaissance du fait qu'il y avait une scène artistique aussi forte à l'époque. Mais en réalité, elles étaient très 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 nombreuses. Et elles ont été totalement effacées, pas oubliées. Hein, parce qu'oublier, ça voudrait dire que le temps aurait fait son œuvre. On n'a pas laissé autant le temps de faire son œuvre, de tri. Et en fait, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est que quand je regardais leurs peintures, leurs images... Alors oui, j'avais la peine qu'elles n'aient pas été considérées et envisagées par l'histoire de l'art. Mais ça, à la limite, ça peut se réparer. Par contre, ce qui est irréparable, c'est que ces images, elles m'avaient manqué. C'est un peu le syndrome Wonder Woman. C'est-à-dire, moi, quand Wonder Woman de Patty Jenkins est sorti, je suis allée le voir à la première séance, le mercredi. Et je suis sortie avec un sentiment de puissance. Et d'un coup, j'ai compris plein de choses. J'ai notamment compris ce à quoi les hommes avaient eu droit depuis toujours. Ce sentiment extrêmement galvanisant d'être un héros, de pouvoir tout faire. Et voilà, nous, on peut être coupés de ce type d'émotions. En tout cas, les vivre de façon un peu plus hybride. Parce que nous, on est habitués à passer d'un monde à l'autre. Moi, je sais m'identifier aux hommes dans les films. J'ai pas le choix, on n'a pas le choix. Et eux, ils ont le choix jusqu'ici. Et donc, je comprends que ça les perturbe.
Vous rêvez de la palme ?
On rêve de la palme. Moi, ça, je trouve le jury, je suis extrêmement contente d'avoir l'opportunité d'être regardée par un jury d'une si grande qualité. Et donc, on peut que rêver qu'il vous aime.
Deuxième palme d'une femme.
Surtout que la première était ex aequo, donc.
Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre.
Être libre, c'est être seule.
Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain.
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.
L'homme que je suis a envie de dire que ce film ne m'a pas perturbé, mais enthousiasmé.
Très bien, merci Laurent.
C'est dit.
C'est un bon point en plus, ça. Abdelatif Kechiche présentait en compétition Make to My Love, Intermezzo, très attendu. Les mêmes, la même bande, après le premier opus, sur une plage de Sète, c'est la scène d'ouverture, et l'essentiel du film dans une boîte de nuit, dans laquelle Kechiche filme la circulation des désirs, jusqu'à toujours soif. Alors oui, les filles ont la main, comme on dit, et particulièrement dans cette fameuse scène de cunnilingus de 14 minutes dans des toilettes en gros plan cru comme un insert porno dans un film traditionnel. Les filles ont la main, certes, mais les garçons, eux, sont réduits à des objets, pourquoi pas. Mais Kechiche filme surtout les femmes, les fesses des femmes. Quant aux garçons, donc, ils sont effectivement réduits à des objets. C'est hypnotisant, c'est saoulant, c'est excessif, C'est fascinant, c'est écœurant.
Ah, moi c'est fascinant. C'est bien parce qu'on l'a vu dans des conditions presque directes, c'est-à-dire on l'a vu de 22h à quasiment 2h du matin, ce moment où on va en boîte de nuit, et on était dans cette boîte de nuit, voilà, donc la salle de cinéma répondait à la boîte de nuit. Moi je pense, c'est pas du tout indigne de parler de ce film-là après celui de Céline Sciamma. Je pense qu'il y a des grandes proximités de propos, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment sur ce que vous indiquez, c'est-à-dire c'est un film où les femmes littéralement à tous les sens du terme mènent la danse, y compris dans une scène absolument sexuelle qui venge peut-être d'un siècle de scènes hétérosexuelles de fellation dans des toilettes entre un homme et une femme où en général c'est l'homme qui mène la danse. Là c'est exactement l'inverse, les femmes travaillent, les femmes étudient, les femmes ont un corps, elles l'exposent, et au fond c'est tout ça que dit et nous montre Kechiche dans, moi me semble-t-il, une très très belle proposition de cinéma.
Encore une fois, quand on est une femme, Laurent, c'est difficile. C'est un film difficile à regarder.
Bon, je connais des femmes, voilà, qui ont beaucoup aimé. Hein,
oui,
bien sûr.
Voilà. Un autre Français, lui, en sélection acide, Trividique, L'Angle Mort.
Oui, alors la sélection acide, vous savez, c'est la petite sélection qui monte chaque année un peu plus. Et là, franchement, avec ce film, L'Angle Mort, alors on n'a pas envie de dire, parce que ça serait pas intelligent de dire, mais pourquoi ce film n'est pas en compétition ou en un certain regard. Bon, il est à l'acide, c'est très bien, c'est une belle exposition ici à Cannes. Mais franchement, quel beau film sur. C'est un film de genre, c'est l'histoire de l'homme invisible joué par un noir. Et là, on a vraiment une façon de prendre le genre pour faire un film, un vrai film poétique, un vrai film d'auteur, avec des vraies interrogations, et un acteur principal, Jean-Christophe Folli, qu'il faut noter, qui est visible, qui ne l'est pas, où est l'indicible dans notre société tellement fracturée. Ce sont les belles questions que pose L'Angle Mort, qui sortira le 16 octobre.
Retour à la compétition avec ce seul roumain, donc, dans cette sélection, un polar Corneliu Porumboiu, avec, oui, les siffleurs, je disais, un polar mathématique à la construction implacable, un flic surveillé par ses supérieurs qui le soupçonne de frayer avec la mafia, une île, une femme fatale, un magot, une langue sifflée pour ne pas se faire repérer, beaucoup d'humour né de l'absurde des situations, bref, un vrai film de genre enfin dans le cinéma roumain. Nous avons rencontré Corneliu Porumboiu.
Inspecteur Cristian Ghelache, sunt Gilda, partenera lui Jolt.
Sunt urmărit, e o mașină în dreapta mea, nu te uita.
Pentru ei sunt iubita ta. Hai la tine să vorbim, uleniște.
Am camere de filmat în toată casa.
L'absurde, de l'absurde naît le comique, en fait. Tout le comique, c'est l'absurde, non?
Oui, ça, je crois que tous mes films, ils ont ça, oui.
C'est l'esprit roumain aussi, ça, l'absurde roumain.
Je crois que oui, je crois que oui. Oui, ça dépend aussi de chaque... Oui, allez, on a un peu tout ça, mais je crois que dans la culture roumaine, oui, c'est un peu... C'est assez important.
C'est ce qui vous sauve d'ailleurs, l'humour, non, tous?
Oui, je crois que oui.
Et même dans le passé?
Dans le passé, c'était beaucoup plus important, c'est sûr.
Plus que maintenant?
Ah oui.
Il fallait beaucoup d'humour pour supporter une situation désespérante comme celle que vous avez connue sous Ceausescu.
Oui, il avait toujours des blagues sur Ceausescu aussi, mais je crois que l'humour, c'est partout, tu vois. Je crois qu'il est partout, c'est quelque chose de, c'est un rapport aussi à l'humour, ça te permet aussi pour toi-même pour les autres et même pour toi-même, je crois que ça te permet un peu de, une espèce d'hygiène, de pas te prendre trop en sérieux.
C'est proche de Coris Maki aussi dans l'esprit, je trouve. C'est quelqu'un que vous aimez, dont vous aimez le cinéma?
Oui, j'aime ses films. J'aime aussi Jarmusch au début. Oui. C'est aussi un côté là, je crois. Oui, ils sont des cinéastes qui aussi j'ai beaucoup vu dans une période, oui. J'aime beaucoup Melville aussi. Ça existe aussi, j'ai vu Le Cercle Rouge, mais ça existe cette scène géniale avec le inspecteur avec les chats à la maison. Ça, c'est génial. Et ça m'a...
Bonjour, Fiorello.
Ça m'a fait travailler, vous voyez, en faisant ce film, tu vois. C'est une espèce de policier assez...
Bonjour, Griffelet.
Opaque.
Bonjour, frère.
Mais Bourville, c'était, non? C'était à notre façon, un peu plus, mais c'était intéressant pour moi, oui.
Ah, on va manger, maintenant. Venez, les enfants, venez. Vous me boudez parce que vous ne m'avez pas vu pour moi. Allez. Allez.
Vous allez voir qu'il y a une connexion absolument magique parfois entre cinéastes dans la même compétition. Roubaix, une nuit de Noël, le commissaire Daoud Rochdizem sillonne la ville qu'il a vue grandir. Personnage solitaire, confronté à cette ville paupérisée et face à une nouvelle enquête avec un jeune inspecteur, le meurtre d'une vieille dame. Voici le pitch donc du nouveau film d'Arnaud Desplechin, tourné dans sa ville natale, Roubaix, et dans lequel le cinéaste mêle harmonieusement le réel et le romanesque. Lumière blanche, climat délétère, l'enquête se resserre sur deux femmes, incarnées par Sarah Forestier et Léa Seydoux, mais la grande figure du film, c'est Rochdizem, qui trouve dans Roubaix une lumière, n'ayons pas peur des mots, le rôle de sa vie. Voici Arnaud Desplechin.
Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent?
Toujours.
Comment vous faites?
Je sais pas. J'essaie de penser comme eux.
Vous avez été flic ici?
Ouais.
Vous avez une famille?
Mon grand frère habite plus ici et tout le monde est rentré au bled.
Toute la famille?
Tous.
Ah, oh. Pourquoi?
Mauvaise question. La question, c'est pourquoi moi je suis resté. Où voulez-vous que j'aille? Ici, c'est toute mon enfance.
Sur ce film-là, j'ai eu envie de déposer les armes. Vous voyez, alors mes armes, c'est la fiction, et de m'incliner, de ramasser un matériel brut, et de dire, voilà, pas de fiction, que du réel.
C'est dingue comme le romanesque vous rattrape quand même. Vous ne pouvez pas échapper à votre nature. Au début, vous nous montrez une ville, des habitants, une condition sociale, et puis plus le film avance, plus vous vous rapprochez vers le romanesque de deux héroïnes.
Mais je le fais pas exprès, je vous assure. J'arrêtais pas de me dire, mince Arnaud, faut que tu fasses comme les frères Dardenne, arrête deux minutes, quoi. Et, parce que je les admire tant. Et puis alors, c'est vrai, il s'est passé cette chose très curieuse, c'est que plus le film se resserre sur ces deux héroïnes, Sarah Forestier et Léa Seydoux, plus le film s'élargit. C'est très bizarre. Ouais. C'est, le film se concentre sur deux âmes, et là, ça devient infini.
Il y a un truc dingue qui est arrivé dans la compétition, il y a un garçon qui s'appelle Cornelio Porumbuyo, qui réalise un polar, et quand je lui ai demandé ses influences, il m'a dit le Cercle Rouge. Vous savez, avec cet acteur Bourvil et cette scène où il revient chez lui, où il parle à ses chats, je vois votre film hier, je vois Rochdizem rentrer et nourrir ses chats. C'est inspiré du Cercle Rouge?
Ah, bien sûr que ça vient de Melville, bien sûr que ça vient de Melville. Mais vous voyez, je suis pas calé hein, au cinéma français. Mais alors, évidemment, Melville étant notre cinéaste français le plus américain, c'était ma lumière. Vous voyez, j'ai toujours des problèmes avec les films de Bresson. Et je me disais, c'est bizarre, Bresson, c'est pas facile à attraper. Et en fait, vous voyez, Melville, il fait pareil que Bresson, mais en plus facile à regarder. Alors du coup, j'étais fou de ça.
On peut dire que c'est un acteur-film, c'est-à-dire que le film, c'est l'acteur, c'est Rochdi. Et Rochdizem, c'est le film.
Tout à fait. Le film a deux titres. Il a un titre pour la France qui est Roubaix, une lumière. J'aurais très bien pu appeler le film Yacoub Daoud, une lumière. Ou Rochdi, une lumière.
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui?
J'ai tourné autour pendant 20 ans. Alors, si vous voulez, ça nourrit, quoi. Alors, du coup, je l'ai appris, quoi. Alors, le jour où on avait rendez-vous, j'étais prêt. J'étais au taquet.
Arnaud, la compétition est de très haut vol cette année. Je trouve ça enthousiasmant pour un metteur en scène d'être dans une compétition de très haut vol. Non,
ah, moi, quand j'ai appris, j'étais extrêmement ému quand j'ai appris notre sélection en compétition officielle, et très ému. Il y a bien sûr, il y a plein de réalisateurs de combien d'importantes, mais je pense à mes deux maîtres en insolence. Vous voyez, puisque c'est des gens qui ont tellement réussi à imposer une façon de faire le cinéma tellement différente l'un de l'autre, c'est ces deux maîtres et ces deux gens que j'ai eu l'occasion de croiser. Oui, c'est Abdelatif Kechiche et Quentin Tarantino. Alors, de faire partie d'une sélection avec ces deux types qui arrivent à imposer des films aberrants, vous voyez, au système et à faire plier le système, c'est mes héros. Alors, d'être dans la sélection avec mes héros, je suis hyper content.
Voilà, Desplechin.
Touché par la grâce,
oui.
Il faut le dire vraiment. Ouais.
Le traître de Marco Bellocchio, oui, à 79 ans, le cinéaste italien a encore des choses à dire, et notamment sur cette affaire, ce membre de la Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, qui, par ses confessions au juge Falcone, a fait tomber plus de 300 membres de cette Cosa Nostra, un film dominé par un acteur époustouflant Pier Francesco Favino, Laurent.
Oui, alors le traître, c'est le titre français du film. En italien, mais aussi en français, il y a une ambiguïté sur le traître et le traducteur. Vous savez, c'est la même origine. Hein, on le sait bien, et je trouve ça très intéressant, parce que ce gars-là, il traduit aussi beaucoup de choses, y compris de la société italienne. Et je trouve que l'ambiguïté sur le titre est fabuleuse, parce que Bellocchio n'en fait ni un héros, ni un monstre. Et ça, vraiment, il tient la note jusqu'au bout, avec une introspection extraordinaire et une façon aussi de représenter cette histoire italienne avec des références d'opéra italien. Verdi est partout présent, je trouve que c'est un des plus beaux gestes cinématographiques de ce festival.
Et ça arrive à la fin, donc c'était fou quand même cette sélection. Oui. En 2019, qu'est-ce qu'il a encore...
Ça sort le 6 novembre, pardon, excusez-moi.
Oui, voilà. En 2019, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire sur le monde ? Eh bien, 82 ans, Ken Loach ne désarme pas. Et... Sorry We Missed You, présenté ici au début de cette édition, reste prégnant dans nos mémoires. Une famille victime des dérives libérales de l'économie et de ses conséquences dévastatrices, décryptées comme il sait si bien le faire dans ce récit accessible à tous. Identification totale, voici Ken Loach. C'est absolument terrible ce constat que vous dressez sur les conséquences de la crise et de l'ubérisation du monde sur une famille de Newcastle.
Well, j'ai l'impression que c'est parce que dans le fond c'est une histoire dont la plupart d'entre nous a vaguement conscience, même si pourtant ce n'est pas notre préoccupation première. Si on réfléchit un peu, bien sûr qu'on sait que ça se passe comme ça, mais on choisit de ne pas y penser. Il faut bien vivre dans ce monde, et voilà comment il est, ce monde. Mais réfléchissons. Il y a des familles qui payent le prix fort pour cette nouvelle économie.
Les familles en sont les victimes, mais l'amour également, tout comme les enfants, l'éducation.
Oui, cela a une incidence sur tous les aspects de la vie des gens, c'est leur travail. Et aujourd'hui, le travail, il est précaire. Dans la plupart des métiers, la journée de 8 heures n'existe plus, c'est l'économie des petits boulots. On travaille de très tôt le matin à très tard le soir. Les gens sont épuisés. Leur salaire varie, il y a des bonnes semaines et des mauvaises. Impossible d'organiser sa vie. Ils sont dans une position fragile et ils travaillent jusqu'à ce qu'ils tombent.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Moi, je crois qu'il n'y a pas de salut sans la lutte. C'est de la politique, quand même. Mais avant tout, il nous faut garder la colère contre l'existence même de cette situation. Il faut dire que c'est intolérable. Ensuite, il nous faut exiger un changement structurel. Et le danger face à nous, il est double. Le premier, c'est l'extrême droite, qui tire profit de la colère et qui désigne comme coupables les immigrés ou les pauvres, ceux qui n'ont rien et qui sont à la rue. L'extrême droite cherche à nous diviser. Et l'autre, ce sont ceux qui ont un discours de gauche. Chez nous, on a eu Tony Blair et tous ceux qui l'ont suivi, qui parlent de ces sujets, mais qui ne changent rien. Rien du tout. Alors les gens se disent, ah, ils sont nouveaux, ils sont jeunes, ils ont fière allure, ils parlent bien, ils feront peut-être quelque chose. Mais ils n'agissent pas.
Et Laurent, on va conclure avec notre favori absolu qui est Parasite de Bong Joon-ho. Une famille coréenne au chômage va peu à peu s'immiscer et bouleverser la vie d'une famille riche. Humour noir, satire sociale, politique, suspense, allégorie complexe dans un monde où coexistent des classes sociales si opposées. Des gens comme vous et moi poussés vers le précipice de la pauvreté. Une comédie sans clown, dit-il. Une tragédie sans méchant, mais impitoyable et cruelle.
Oui, c'est pour moi sa meilleure veine. C'est-à-dire, c'est celle de The Host qui mêle à la fois la Corée et les Corées. La famille et des familles. le fantastique et la politique. Là, vraiment, il excelle dans un mélange incroyable, en plus d'humour, d'angoisse, de réalité sociale et de pertinence sociale aussi. Et évidemment, ça pourrait certainement faire une belle palme d'or.
On avait raté un Coréen en 2004, Old Boy. J'espère qu'on ne ratera pas cette première palme, ce qui serait une première palme coréenne. On peut vous l'annoncer tout de suite en exclusivité. Nous connaissons les lauréats du prix L'Œil d'Or, Laurent, remis en ce moment même, et donc en exclusivité.
L'Œil d'Or, c'est le meilleur documentaire hein, du festival, toute section confondue. Il est cette année ce jury présidé par Yolande Zoberman, qu'on connaît bien ici. Et bien voilà, c'est un prix ex-aequo à deux formidables films, La Cordillère des Songes du Chilien Patricio Guzman et puis le film syrien Pour Sama de Wad Al-Kateab et Edward Watts, qui est la question: comment est-ce qu'on peut donner vie et naissance dans un pays qui est en ruine et en guerre.
Et voilà, et nous accueillons maintenant nos trois correspondants étrangers. Bonjour Ben Kroll.
Bonjour.
Pour Variety et IndieWire.
Et The Rap ici aussi.
Oh oui, The Rap. Ah,
je travaille beaucoup.
Bonjour Alex Vicente.
Bonjour.
Pour El País. Et bonjour Thomas Borès pour la France, France 24.
Absolument, bonjour.
Avant de vous poser deux autres questions, je voulais d'abord savoir comment vous, tous les trois, vous avez vécu ce qu'on considère comme une sélection époustouflante, Thomas.
Ah bah écoutez, moi j'ai très très bien vécu, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des coups de mou dans les sélections, et ça donne même une espèce de rythme pour nous critiques qui sont prompts à s'énerver ou à s'enthousiasmer. C'est vrai, souvent il y a des films qu'on déteste, alors ça crée un peu les tensions. Mais là, il y en avait aucun vraiment de détestable, donc du coup il y avait une espèce comme ça de belle énergie, et à chaque fois on était surpris. Vous parliez du Traître tout à l'heure, et c'est vrai qu'on arrivait en fin de festival, on se dit est-ce qu'on va encore être surpris, et boum, arrive le Bellocchio. C'était dingue.
Ben Kroll.
Bah en fait, le fait que le festival c'était assez moche dehors pendant presque une semaine.
C'est vrai, on l'a dit,
c'était,
ça tombe.
J'avais jamais eu l'envie de voir la mer, de promener sur la croisette. C'était toujours, ok, je vais aller voir un film. Et chaque fois, j'étais agréablement surpris par le fait que le film était un autre chef-d'œuvre. Alors c'est vraiment, c'était très bien. Ça m'a, voilà, c'était parfait.
Alex.
Quand ça va pas, on le dit, on a tendance à râler pas mal. Cette année, franchement, c'était très bien. Je trouve que ça a été le meilleur festival depuis très longtemps. Et il y a eu un vrai effort de programmation. Je trouvais la section officielle vraiment exceptionnelle, il faut bien le dire. On y a vu des choses incroyables, des cinéastes qui s'emparent des codes du cinéma de genre et du zombie comme emblème, comme symbole de l'homme contemporain.
Un peu trop d'ailleurs de zombies cette année, non?
Au tout début, il y en a eu 3 ou 4 de suite, mais je trouve ça intéressant.
Les zombies métaphoriques, c'était un petit peu lourd.
On n'est pas d'accord aujourd'hui.
Non.
De vieux maîtres du cinéma d'auteur qui se remettent en cause, parfois avec une certaine maladresse, mais je trouvais ça très touchant. La représentation du désir de façon aussi extrême que chez Keshish ou chez Albert Serra. Je sais pas.
Parlez-nous d'Albert Serra, parce qu'il a créé... On parle beaucoup du Keshish qui a beaucoup choqué en salle, mais on parle pas du Albert Serra, l'espagnol. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film?
C'est un film
sur un groupe de libertins expulsés de la France au XVIIIe siècle qui se retrouvent au milieu d'une forêt perdue au milieu de nulle part pour avoir des relations sexuelles dans toutes ces formes, disons. Ouais. La différence avec Keshish, c'est que chez Serra, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Il filme les corps de la même manière, avec la même attitude frontale face au corps humain.
Et même pas des jeunes corps ensoleillés comme chez Keshish, quoi.
Exactement. Des gens de tous les âges, toutes les classes sociales. Il construit une espèce d'espace.
C'est pas la même époque aussi, et même pas le même environnement, mais c'est vrai que c'est des films qui se rapprochent, parce que c'est l'unité de lieu et de temps.
Oui.
Là, c'est une clairière, dans le film d'Albert Serra.
Bien sûr.
C'est l'équivalent radical, si on peut dire, de Keshish, parce que c'est vrai que le Keshish, il est pop.
Oui,
c'est lumineux, c'est solaire et tout, alors que Albert Serra, il est vraiment dans la radicalité, laissez pas nous séduire.
Ce sont deux cinéastes radicaux, chacun à sa façon, je trouve, en tout cas pour ces films. Mais je trouvais le film d'Albert Serra l'un des plus intéressants de la sélection.
Ah oui,
tout à fait, ouais. Et en contrepoint, on peut...
C'est pas par nationalisme.
Pas du tout. Non.
Rassurez-nous.
Vous savez que je suis pas très chevant avec les cinéma espagnols. Je peux l'être pour le cinéma espagnol. Et cette année, je trouve que la sélection de trois films espagnols qu'on y a vus, le film d'Albert Serra, le film d'Olivier Lache et le film d'Almodovar, évidemment, font partie des meilleurs de la sélection de cette
année. Alors, vous espérez, vous croyez encore à une palme pour Pedro?
En tout cas, je trouve que s'il ne l'a pas cette année, il ne l'aura jamais, car les circonstances ne seront jamais réunies de la même manière que cette année. C'est-à-dire un film qui est vraiment un chef-d'œuvre, qui ressort du lot, qui fait partie du meilleur de son cinéma. Et un espèce de consensus autour du film aussi, car par le passé, on a vu que certains de ses films plaisaient moins. Dans ce cas, je pense que c'est évident qu'il mérite la Palme d'Or. Après, ce sont les opinions de 8 personnes, de 9 personnes qui décideront de l'avenir du palmarès. Donc, on verra ce qui se passe. Ça peut être un film qui divise aussi. On a vu chez la presse anglo-saxonne moins d'engouement que chez la presse française ou chez la presse européenne. Donc, on verra si ça devient un film de consensus pour les jurys ou pas.
C'est pas forcément vrai, en fait, parce que là, je sais pas mal de gens dans la presse anglo-saxonne qui étaient bouleversés par le film.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, j'ai pas dit que ça n'a pas plu. J'ai dit qu'il y a moins d'engouement, c'est-à-dire qu'on crie moins au chef-d'œuvre que parmi la presse française ou dans le tableau des critiques du film français. Il y a 11 palmes sur 14 ou sur 15, ce qu'on n'avait jamais vu dans un festival comme Cannes.
Il y a des informations assez triviales, mais super importantes. C'est comment les films se vendent aussi. J'ai appris, par exemple, que le Céline Sciamma avait un énorme succès dans les ventes à l'étranger.
Le film était vendu aux US, en Angleterre,
en Australie,
et c'était un très grand succès. Apparemment, le film qui vend le mieux, c'est pas un film dans la sélection, c'est un film dans la semaine de la critique. J'ai perdu mon corps, j'ai parlé avec quelqu'un.
Un film d'animation,
j'ai parlé français. Avec Charles Tesson hier, à un déjeuner. Il m'a dit qu'apparemment c'est le meilleur vendeur de tout le festival. Le film qui a gagné le prix Nespresso de la semaine de la critique. Un film qui va jouer le mois prochain au festival d'Annecy.
Oui.
Un film français qui va vraiment étonner tout le monde avec sa force, avec sa beauté d'animation. Et qui change complètement de tous les codes qu'on est souvent habitué à voir dans les films d'animation. C'est un film qui est tiré plutôt du monde du BD, c'est un peu une
pas
grotesque.
Pour enfants, hein, c'est pas pour enfants.
C'est pas du tout pour enfants. Ouais. C'est sur une main qui cherche son corps. Et en fait, effectivement, une main devrait être séparée de son corps violemment.
C'est d'après un récit de Guillaume Laurent qui s'appelait Happy Hand.
Exactement.
Qui avait écrit, c'était le co-auteur de Amélie Poulain.
Exactement. À vous trois, on va le faire à cinq d'ailleurs. Je vais demander à chacun une scène de tout ce festival incroyable et une réplique. Thomas.
Alors la scène, c'était on reste à la semaine de la critique, un film magnifique. C'est peut-être le film que j'ai préféré, moi, de toute pétition confondue.
Pétition.
Toute section. Séjour dans les monts Fuchun de Gu Xiaogang. C'est un film chinois. Il a 31 ans. C'est un premier film, donc il concourt pour la Caméra d'Or. On prie un peu pour lui. Ce titre, Séjour dans les monts Fuchun, s'inspire en fait d'une célèbre peinture. Alors moi, je dis célèbre, mais je la connaissais pas. C'est un rouleau horizontal peint au XIVe siècle. Alors extraordinaire, c'est que de ce film, c'est une chronique familiale dans la Chine contemporaine. Et à un moment, il y a un plan séquence absolument magnifique, très long. Et c'est un panoramique qui suit la caméra, c'est horizontal. Et en fait, il y a une espèce comme ça de course entre un garçon à la nage et sa femme qui le suit en parallèle, enfin en tout cas sa promise. Et en fait, il respecte la lecture presque du rouleau dont le titre s'inspire. Donc ça fait une espèce comme ça de lecture progressive où la nature, où l'imprévu arrive. C'est magnifique. Voilà, le film s'appelle « Séjour dans les monts Fuchun ».
On passera pour la réplique après. Ben Kroll, votre scène.
Ma scène préférée est aussi en plan séquence dans ce film.
Incroyable.
Avec plein de plans séquences, c'est le film The Climb de Michael Covino, un film qui jouait dans Un certain regard.
Ouais.
C'est une comédie américaine que je trouve très 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 réussite. Réussite dans le sens que souvent dans les comédies, on trouve pas vraiment du cinéma. Les comédies sont tirées des sketchs, des comédiens, des acteurs de la télévision. Et ça, c'est un film qui est du vrai cinéma. C'est un film d'un auteur qui sait utiliser la caméra, qui sait manipuler le temps, l'espace. Dans la première scène du film, ce sont deux amis, un peu des losers, qui sont partis en France pour l'enterrement de David Jeune Garçon, l'un de l'autre. Et pendant leur montée, une petite colline dans le Var, l'un dit, le témoin dit, en fait, moi aussi, je couche avec ta fiancée. Et la scène dure 7-8 minutes en plan séquence, en montée. C'est incroyablement drôle et le film est extraordinaire.
Alex Vicente.
Je viens de dire que je ne suis pas chauvin et pourtant j'ai choisi une scène d'Almodovar.
Ah, oui.
Je suis désolé, mais bon, je pense que l'occasion le mérite.
Ouais.
J'ai choisi le moment où l'on découvre la photo des vrais parents d'Almodovar.
Ah, oui.
Devant les chorizos qui pendent du mur dans la maison familiale et par laquelle on comprend qu'une partie du récit du film n'est pas simplement un flashback. Et par un petit geste et par un petit clin d'œil, Almodovar crée une espèce de brèche dans son récit et met en cause la fiabilité de son narrateur. Et je trouve que par ces petits gestes, Il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre, et c'est par ces genres de petits gestes qu'on décèle le talent des grands réalisateurs, et Almodovar en fait évidemment partie.
Laurent.
Bah, Dieu sait si les effets spécieux parfois me laissent de marbre.
Ah oui, mais bah oui, alors.
Oui, mais oui, ben, bah, on change dans la vie. En tous les cas, face au film de Marco Bellocchio, le traducteur, la façon dont il filme de l'intérieur. Nous sommes dans la voiture du juge Falcon et nous sautons littéralement avec lui. Moi, je n'ai jamais vécu ça au cinéma. C'est une dinguerie absolue, la façon dont Bellocchio l'a fait.
Et moi, je vais être plus classique. Je vais choisir un film de la compétition, le film de Céline Sciamma. Et la dernière scène de ce film, le dernier plan, sans le révéler, sur Adèle Haenel, ce plan m'a mis les poils au garde à vous. C'est une leçon d'acteur phénoménale. Comme dans un plan, le même plan, elle passe des pleurs au rire et à la liberté et à l'espoir. Elle ouvre cette fin. C'est absolument époustouflant. On va passer aux répliques maintenant. Alors Thomas, c'est quoi votre réplique du festival ?
Eh ben, je suis Chauvin, c'est un film français, ça s'appelle Sibylle, c'est de Justine Triet, l'un des derniers films présentés en compétition. Et c'est Laure Calamy, une actrice que j'aime beaucoup, second rôle du cinéma français, mais quel second rôle ? Et alors elle parle à deux gamins, c'est la sœur de l'héroïne, et elle en est un peu fatiguée de cette sœur, et elle dit aux deux gamins, qui sont vraiment tout petits, tu vois, dans la vie, il y a des gens qui sont tellement malheureux qu'ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Et quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres. Et dans une séquence après, elle va dire au même petit gamin, il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. Ce politiquement incorrect, j'adore.
Ben Kroll.
Bah, en fait, c'est une réplique dans un film que j'ai pas trop aimé. C'est une réplique dans Make to My Love à Intermezzo.
Ouais.
C'était un film où, qui signe son monomania pour une certaine partie de l'anatomie des femmes.
Les fesses!
Mais dans cette petite réplique, il y a Javier Arcy et sa petite cousine dans la boîte de nuit. Et c'est un des seuls moments dans le film où on voit pas des fesses, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Elle est en train de mater tous les hommes dans la boîte de nuit en parlant de leurs fesses.
Oui.
Et en fait, à un moment, Arcy dit, mais pour moi, un homme avec des grosses fesses, c'est un peu une femme. Et c'est peut-être la façon que je dis, bon, mais moi aussi, bon, pas juste moi, il y a que les femmes aussi sont aussi obsédées par les fesses. Je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais c'est signe aussi.
Ça peut l'être. Alex.
J'ai choisi une réplique du film de Quentin Tarantino. J'allais choisir la toute dernière réplique du film, mais ce ne serait pas très judicieux.
Non.
Donc, je vais en choisir une autre, prononcée par un exceptionnel Brad Pitt.
Exceptionnel.
Comédien joué par Leonardo DiCaprio qui craint d'être devenu has-been et il lui dit, hey. You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it.
Super. Allez, Laurent, une réplique.
J'ai choisi un film hors compétition, qui est le documentaire d'Alain Cavalier, Être vivant et le savoir. L'histoire, c'est que Alain Cavalier propose à Emmanuel Bernheim de faire un film sur la mort de son père. Et puis un jour, elle l'appelle Cavalier pour lui dire qu'elle-même est malade. Et il lui répond, c'est pas grave, mademoiselle Bernheim, nous ferons un autre film dans quelques mois. Vous aurez changé et j'aurai changé.
Et moi, j'ai choisi dans le film de Elia Suleiman, It Must Be Heaven, cette réplique, le monde entier boit pour oublier, vous les Palestiniens, vous buvez pour vous souvenir. Voilà, merci à tous les trois.
Merci
Ben Kroll, merci Thomas Borrez, merci Alex Vicente, merci aux équipes de Radio France tout au long de ce festival. Générique de fin avec le cinéaste roumain Corneliu Porumbuio.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Des prises de vue sont des prises de son. Porto Cantes a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Hugo Combe s'occupait de la préparation. C'est une émission réalisée par Xavier Pestugia. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Corneliu Porumbuio, j'y étais.